Bien, venu.
Pour un PCV ?
Bonjour, c'est pour quel pays ?
PCV. CFM, bonjour ?
PCV.
Allô ?
C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV ? Pardon ?
PCV.
Je vous entends très mal, monsieur.
PCV.
Cette semaine, je vous propose de partir à la découverte, non pas du nouvel album de Gnawa Diffusion, parce que celui-ci ne sortira qu'en 2020, mais on aura quand même un extrait du premier single lors de nos conversations que nous aurons avec le leader de ce groupe qui a déjà 26 ans de vie, Amazigh Kateb, le leader de Gnawa Diffusion sera avec nous dans PCV, et ce sera l'occasion de parler de sa carrière, de parler de sa citoyenneté, parce que c'est quelqu'un de très engagé, Amazigh Kateb, et ce sera aussi donc l'occasion d'écouter Rojo, le nouveau single de ce nouvel album qui sera donc apparaître en 2020. En attendant, on va s'écouter un vieux titre de Gnawa Diffusion, Promesse de mort, extrait de l'album Shock Helal en 2013. Amazigh Kateb sera avec nous tous les jours à 11h30, 15h40, 18h50 en diffusion intégrale samedi à 22h.
Promesse de mort, l'entend-elle promise.
C'était Promesse de mort, extrait de l'album Chocalal de Gnawa Diffusion. Ne ratez pas notre premier entretien avec Amazigh Kateb tout à l'heure à 18h50.
Bienvenue.
Pour un PCV ?
Bonjour, c'est pour quel pays ?
PCV. CFM, bonjour.
PCV.
Allô ?
C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV ? Pardon ?
PCV.
Je vous entends très mal, monsieur.
PCV.
Allô, Amazigh Kateb, bonjour. Merci d'être avec nous dans PCV cette semaine. À l'occasion de votre venue, très prochainement dans le coin, vous remontez sur scène avec Gnawa Diffusion, un groupe que vous avez créé, oula, il y a quelques années maintenant, 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça ?
Oui, 92, ça doit faire même plus que ça.
Ah oui.
J'ai peut-être vous compter à partir du premier album, mais... Le premier album, c'est 96, donc effectivement, le premier album, ça fait 23 ans, mais l'existence du groupe, c'est plutôt 27 ans.
Ouais. Alors, je vais vous dire pourquoi je me trompe, c'est tout simplement parce que j'avais eu le plaisir de vous interviewer il y a 23 ans pour ce premier album par téléphone à l'occasion, dans cette presque même émission, qui a très peu changé depuis, vous voyez.
Ben voilà, finalement, on n'est pas si vieux que ça.
Si parfois il y a eu des pauses dans Gnawa Diffusion, c'est parce que vous êtes parti sous votre propre nom, chanter dans d'autres univers, hein, plus proche d'ailleurs des textes de votre papa.
Oui, il y a eu cet épisode-là, mais il y en a eu un auparavant aussi. Il y a eu une petite séparation dans le groupe en 2001. Et bon, on a reformé tout de suite une équipe en amenant des nouvelles personnes. Donc il y a eu effectivement plusieurs périodes dans Gnawa Diffusion. Et mais c'est vrai que la grande pause que j'ai prise, c'était en 2009. En gros, de 2009 à 2012, j'étais sur un truc, sur un album solo qui s'appelle Marché Noir, où j'avais enfin réussi à reprendre les textes de mon père, parce que j'avais du mal avec le deuil. En tout cas, j'avais du mal à donner une autre forme que celle qui avait été donnée par mon père à cette écriture, donc j'étais un peu prisonnier du souvenir, etc. Donc cet album-là m'a permis de décanter ces choses-là. Et puis par la suite, il y a eu donc un nouvel album avec Gnawa, donc on s'est reformé en 2012 à peu près, donc on a sorti fin 2012 un album qui s'appelle Chukuhel. Et puis par la suite, il y a eu aussi différentes collaborations qui n'ont pas donné d'album, pas encore. Notamment une collaboration avec des Cubains. On a monté un projet qui s'appelait Argel de la Havana, qui est pour l'instant en stand-by parce que c'était très lourd à faire tourner. On était pratiquement 10 sur scène, plus les techniciens, avec beaucoup de backline, etc. Donc c'était difficile à faire tourner. Mais c'est vrai que la grande pause qu'on a pris là en termes discographiques, elle correspond à d'autres collaborations avec d'autres gens, d'autres expériences, des découvertes. C'est vrai qu'on a tendance à compter l'âge d'un groupe ou d'un artiste au nombre d'albums. Et puis, on commence à croire qu'entre deux albums, il n'y a pas grand-chose à part des tournées. Mais en fait, c'est toute une vie, il y a plein de choses. Et voilà, quand on ne rentre pas dans le rythme commercial effréné de l'actu et de « il faut sortir ça pour ne pas disparaître », la réalité, quand on ne veut pas disparaître, on ne disparaît pas. Il suffit de décider.
Allez, je vous propose de démarrer cette série d'entretiens avec Algeria. C'était en 1996. Et puis on se dit à demain. Au revoir, Amazigh Kateb.
PCV. يشعل الظلام في نور النهار النوعة والبقالة ديال بويا البقالة ديال بويا البقالة ديال بويا البقالة ديال بويا بكلام معنوي بكلام معنوي الظلام في نور النهار الممنوعة نور النهار الممنوعة
Algeria, extrait de l'album du même nom, sorti en 96 de Gnawa Diffusion. Amazir Kateb, leader de Gnawa Diffusion, est notre invité dans PCV toute cette semaine.
Bienvenue.
Pour un PCV ?
Bonjour, c'est pour quel pays ?
PCV. CFM, bonjour.
PCV.
Allô ?
C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV ? Pardon ?
PCV.
Je vous entends très mal, monsieur.
PCV.
Allô, Amazir Kateb, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes reparti en tournée avec Gnawa Diffusion et vous êtes en même temps dans votre vie toujours très engagé. Est-ce que le fait de repartir sur les routes avec Gnawa Diffusion est lié directement avec, je sais pas, la situation politique dans le monde et plus précisément en Algérie ?
Alors, on ne peut pas dire ça non plus parce qu'on a une activité artistique avant d'avoir une activité politique ou des positions politiques. Mais c'est évident que la situation en Algérie et même avant ça, la crise qu'il y a eu avec les Gilets jaunes en France, en tout cas le mouvement des Gilets jaunes et ce qu'ils véhiculaient, apporte forcément de l'eau à notre moulin. Je pense que quand on a un propos qui est sociopolitique ou en tout cas, quand on veut parler de l'époque, je crois que la meilleure source d'inspiration, c'est l'époque elle-même. Ça n'a rien de tourner autour du pot et d'essayer de poétiser la situation qui est loin d'être poétique. Donc oui, effectivement, la situation et les contextes différents par lesquels on passe nous modèlent et nous font réagir et nous interpellent, sans pour autant être forcément dans la musique, transparent dans la musique. C'est juste quelque chose qui influe sur nos vies. Je pense que ça influe forcément plus sur l'écriture que sur la musique elle-même, puisque la musique ne parle pas politique. À moins que je me trompe, c'est plus politique que d'autres. Je sais qu'il y a des notes, par exemple, en tout cas, il y a des intervalles de notes dans l'histoire de la musique qui ont été considérés comme diaboliques ou interdits par l'Église, notamment l'intervalle qu'on appelle le diabolus, qui est un intervalle entre les demi-tons. Donc si, en fait, je rectifie, les notes peuvent être politiques.
Et justement, vous revenez aussi en préparation du futur album qui sortira en 2020 avec ce single que vous devez déjà jouer sur scène, j'imagine, avec d'autres morceaux, qui s'appelle Rojo, et ça veut dire « Partez, bye bye, cassez-vous », c'est ça ?
Oui, c'est ça. Allez-vous-en. Bah, c'est ce que réclame le peuple, sauf qu'on essaye de dévoyer... une demande ou une revendication radicale, on essaie de la dévoyer en faisant une purge qui arrange quelques apparatchiks du système qui restent quand même aux commandes actuellement. Donc on dévoie, de toute manière, il y a toujours moyen de détourner, de dévoyer les initiatives, les révolutions, simplement. Voilà. Donc effectivement, c'est bien que les artistes et que les gens qui ont la parole, qui ont la chance d'avoir un micro ou qui ont la chance d'être interviewés comme là maintenant pour passe, soit là pour redire et réaffirmer les revendications en question et ne pas les laisser se faire embourber ou se faire manipuler ou se faire détourner, parce que c'est le principe même de la contre-révolution, c'est de donner du grain à moudre et de jeter des os à ronger aux gens pour qu'ils se détournent du but principal. C'est ce à quoi on a assisté dernièrement avec la polémique sur le drapeau berbère, le drapeau amazigh, qui était loin d'être la revendication de ces manifestations depuis le départ, qui sont des manifestations anti-système, tout simplement. Et en fait, on jette des débats dans la société qui sont des débats creux, qui n'ont ni queue ni tête et qui, de toute façon, ne donnent lieu à aucun consensus. C'est juste du blabla sur lequel on rajoute de l'huile pour que ça flambe et que ça flambe pas là où on n'a pas envie que ça flambe, quoi, tout simplement. Donc, c'est très important que des voix s'élèvent. Et vraiment, sans aucune prétention, je pense que l'artiste a son rôle à jouer dans la culture, mais aussi dans la politique, c'est évident.
Rojo, voilà le nouveau single, on l'écoute, et puis on se dit à demain. Salut Amazir Kateb.
À demain, salut.
PCV.
Voilà le tout nouveau titre de Gnawa Diffusion, Rojo. Amazir Kateb est notre invité dans PCV cette semaine.
Bienvenue.
Pour un PCV ?
Bonjour, c'est pour quel pays ?
PCV. CFM, bonjour ?
PCV.
Allô ?
C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV ? Pardon ?
PCV.
Je vous entends très mal, monsieur.
PCV.
Allô, Amazir Kateb, bonjour.
Bonjour.
Amazir Kateb de Gnawa Diffusion, actuellement en tournée. Alors, je me suis rendu compte, donc, Amazir, que vous êtes né en Kabylie et que vous y avez vécu quelque temps en Algérie, puisque vous êtes arrivé en France. Vous êtes né en 72, vous êtes arrivé en France en 85, quelque chose comme ça. Donc, vous êtes arrivé en France à l'adolescence. Et on a à peu près le même âge. Moi, j'avais beaucoup de copains à l'époque qui arrivaient d'Algérie ou du Maroc et qui étaient dans une situation dramatique parce qu'ils avaient quitté leurs copains, ils avaient quitté leurs amis, ils avaient tout quitté, ils étaient complètement perdus. Et beaucoup se sont retrouvés en dépression, hein, il faut dire ce qui y est, et complètement perdus dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, avec une mauvaise maîtrise de la langue. Alors certains s'en sont sortis, mais pour d'autres, ça a été le début d'une longue chute, quoi. Comment s'est passée cette arrivée pour vous en France ? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile ?
Alors, je vais juste commencer par faire un petit rectificatif au niveau des dates, parce qu'il y a des petites erreurs. Je suis effectivement né en Algérie, mais à Staouéli, donc à côté d'Alger, pas en Kabylie. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, donc je suis venu en France en 88 et non pas en 85. Et en arrivant en France, j'ai eu la chance d'atterrir dans une région vraiment très sympa et très accueillante, qui est le Diwa, dans la Drôme. Donc j'ai passé un an et demi à Di, avec mon père à l'époque qui était là-bas pour écrire en fait. Il était parti en 87 pour écrire et c'est là que j'en ai profité pour faire une espèce de crise d'adolescence un peu débile. Donc quand il est rentré, il m'a mis militari en juin de faire mes bagages et de le suivre pour qu'il m'ait à l'œil. Donc je suis arrivé un peu, pas de force, mais disons que j'ai pas choisi cet exil-là. Il n'y avait pas de terrorisme à l'époque en Algérie. Il n'y avait même pas eu encore les événements d'octobre 88. Donc, j'ai quitté une Algérie plutôt sympathique, même si elle était en train d'entrer dans une crise. Elle était même, je pense, en plein dedans. Mais étant adolescent, j'étais plus dans une crise hormonale que...
Ouais, que politique.
Donc, c'est vrai que j'ai quitté, moi aussi, l'Algérie à contre-cœur, parce que j'étais amoureux, parce que j'avais mes premiers amis. Quand on a 15-16 ans, c'est là qu'on commence à devenir un petit bonhomme. Et que voilà, on se lie d'amitié, on est amoureux, on s'émerveille des choses, on s'énerve, voilà, on lit des choses, on réagit, voilà, comme tous les adolescents. Donc j'ai eu peut-être un peu plus de chance que d'autres par le fait que je suis arrivé à la campagne et que c'était plutôt une campagne sympathique. Le Diwa à l'époque était un di, en tout cas c'était une mairie communiste, avec énormément d'infrastructures pour la jeunesse, plein de choses pour faire du sport, plein de choses pour plein de bibliothèques, enfin voilà, c'était très... C'était, on va dire, un exil, mis à part le fait que c'était à contre-cœur, l'objet de l'exil en lui-même n'était pas spécialement une souffrance. Je me suis très vite fait venir des amis. Et puis, j'avais pas la barrière de la langue, parce que j'étais déjà francophone. Donc, j'ai pas eu ce choc-là, qui est aussi très important. Parce que quand on arrive et qu'on a un accent, qu'on prononce mal et qu'on conjugue mal, ben forcément, on est tout de suite l'objet de raillerie, ou en tout cas on se sent étranger beaucoup plus que quand on parle sans accent et qu'on maîtrise la langue. Donc ce jour-là, j'ai compris l'importance de la langue d'une manière générale, pas seulement de la langue française, mais j'ai compris que perdre les Algériens dans une polémique linguistique, par exemple, c'est n'importe quoi, parce que les langues sont autant de passeports et autant de clés qu'on doit avoir sur soi, un peu comme un trousseau. Plus on a de clés, plus on ne bouge pas.
Je passerai la journée à discuter avec vous, Amazir Kateb. Mais dans cette émission, on écoute aussi de la musique. Et donc, on écoute un autre extrait. Tiens, on va écouter un extrait de l'album Souk System. Quelle année? Je me trompe dans les années, alors.
2003,
Saki Baki. À demain, Amazir Kateb.
شمعنا مع قرب حسكاته ما بتناهاش حال الإنسان ساقي باغي نور شمال ما قرب حسك غادة ما ابتنى هذا شحال ما غدك
C'était Saki Baki, extrait de l'album Sock System de Gnawa Diffusion, album paru en 2003. Amazir Kateb est notre invité dans PCV cette semaine.
Bienvenue.
Pour un PCV ?
Bonjour, c'est pour quel pays ?
PCV. CFM, bonjour.
PCV.
Allô ?
C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV ? Pardon ?
PCV.
Je vous entends très mal, monsieur.
PCV.
Amazir Kateb, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à l'occasion du passage de Gnawa Diffusion sur scène dans la région. Difficile de s'y retrouver quand on cherche Amazir Kateb sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs pages avec votre nom. Et il y en a une qui a attiré quand même mon attention, c'est celle où vous appelez à rédiger une constitution. Est-ce que vous pouvez m'en parler ?
Oui, en fait, c'est un appel à constituer, tout simplement, parce qu'en fait, aussi bien en France qu'en Algérie, on a dévoyé le sens de la démocratie. Bon, c'est une vieille histoire, je ne vais pas revenir sur les différentes étapes qui ont fait que la République a muté en démocratie formelle et non pas factuelle et non pas réelle. Parce qu'on utilise en fait des ingrédients de la démocratie au lieu d'utiliser tous les ingrédients de la démocratie. C'est un peu comme si je vous disais, par exemple, quand on dit que les élections sont démocratiques, ce n'est pas faux. Mais les élections ne sont qu'un élément du processus démocratique. S'il suffisait d'élire quelqu'un pour être en démocratie, ça se saurait. Or, la crise des Gilets jaunes nous a montré le contraire, l'Algérie nous montre le contraire, et puis même toute l'histoire de démocratie et des républiques montre qu'une république n'est pas une démocratie et qu'une république est un système représentatif. Et que, en fait, pourquoi j'appelle les gens à écrire la Constitution ? Parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale qui représente un peu, en fait, si on devait faire la comparaison pour que les gens comprennent bien, la Constitution, c'est un peu le code pénal des hommes politiques. C'est-à-dire que la Constitution, si elle ne fait pas peur aux hommes politiques, c'est un peu comme si la loi ne faisait pas peur aux bandits. Et que donc, pour que cette loi fasse peur aux hommes politiques et qu'elle les cadre et qu'elle empêche les abus et qu'elle empêche la corruption et les abus de pouvoir, notamment, eh bien, cette Constitution, il ne faut pas qu'elle soit écrite par ceux-là même qui devraient la craindre. Il y a une logique là-dedans. On ne laisse pas les bandits écrire le code pénal. Pourquoi on laisse les hommes politiques écrire la Constitution ? Puisque c'est la loi qui doit les encadrer et les empêcher de faire n'importe quoi. Donc, c'est le peuple qui doit écrire sa Constitution. Et on voit très bien, dans les pays où le peuple a écrit sa Constitution, que les choses sont beaucoup plus policées et que les écarts et la distance qui existe entre les citoyens et leurs représentants est considérablement diminué. Vous pouvez voir par exemple en Suède, au Danemark, en Finlande ou en Norvège, vous allez voir que les élus, c'est pas la base de l'eau, qui n'ont pas de garde du corps, que quand vous allez dans un ministère et que vous rencontrez le ministre ou la ministre en personne, c'est lui-même ou elle-même qui vous fait le café et non pas une secrétaire ni une jupe. Donc il y a vraiment, je pense, une prise de conscience universelle du vrai sens de la démocratie, mais parce qu'on n'est plus le même peuple ou les mêmes peuples que nous étions dans les années 60, dans les années 50 ou même dans les années 70.
Est-ce que ce serait, Amazir Kateb, un bon sujet mais d'une chanson, mais est-ce que ce serait compressible comme ça dans une chanson qui serait sur votre prochain album, ça ?
Ben, j'ai écrit quelque chose sur la Constitution, mais pas sous forme de chanson, j'ai écrit un dialogue. Entre deux gars qui se posent la question de la Constitution, qui sont en plein révolution et qui entendent parler de la Constitution. Et puis à un moment, il y en a un des deux qui dit à l'autre, ben, viens, on l'appelle, moi j'ai son numéro, je l'ai rencontré la dernière fois. Et puis en fait, on fait venir la Constitution à table et elle dit son rôle, en fait. Bon, la Constitution, là c'est un dialogue en arabe que j'ai écrit. Donc la Constitution en question, c'est un homme, puisque le mot Constitution en arabe c'est masculin, donc c'est Dustur. Et donc, on appelle un des deux gars, appelle Dustur, et puis Dustur vient, et puis il explique. Et il dit, voilà mon rôle, il ne faut pas me laisser entre les mains des politiciens, parce que c'est leur donner, c'est leur ouvrir la porte. C'est à vous d'écrire, c'est à vous de me dire ce que je dois faire, etc. Donc, pour l'instant, c'est sous forme théâtrale, mais rien ne dit que ça ne va pas sortir en chanson. De toute façon, il y a toujours moyen de simplifier les choses. Il suffit juste de trouver le bon ricochet.
Amazir Kateb, on se quitte en écoutant Ya Malika, extrait de l'album Chokelal. À demain.
LPCV.
غير انا وياك، غير انا وياك. غير انا وياك، اه وين قلبو الشماش. يا وغير انا وياك دلالي يلبسو في القرى. غير انا وياك يا عمري يا رامون صماج. غير انا وياك دلالي يا والباقي يا راواش. ديرا دا دا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا be bam be be bam be be da 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 de ya de de bun tu tu da
C'était Yamalika de l'album Chocalal de Gnawa Diffusion. Amazigh Kateb est notre invité dans PCV cette semaine.
Bienvenue.
Pour un PCV ?
Bonjour, c'est pour quel pays ?
PCV. CFM, bonjour.
PCV.
Allô ?
C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV ? Pardon ?
PCV.
Je vous entends très mal, monsieur.
PCV.
Amazigh Kateb, bonjour.
Bonjour.
On a vu dans nos conversations tout au long de cette semaine que l'Amazigh politique, citoyen, est indissociable de l'Amazigh musicien, chanteur. Est-ce que vous, quand vous montez sur scène, vous avez comme ça une sorte de double, je sais pas, une sorte de clapet, tiens, je suis musicien, je suis sur scène, ou bien est-ce que vous êtes toujours le même dans la vie et sur scène ?
C'est vrai que quand on traite de sujets politiques dans les chansons, parfois on a besoin d'étayer entre les chansons, de parler, de remettre dans le contexte, d'expliquer. En plus, moi, je chante en arabe, donc étant en France ou parfois dans des pays où ça ne parle pas l'arabe, je suis obligé quand même d'expliquer un petit peu ce que je raconte. Et évidemment, même si je peux ne rien dire aussi, je peux faire le choix de ne rien dire parce qu'on est dans un contexte particulier. Ça m'est arrivé, par exemple, de jouer en Hollande ou en Allemagne dans des contextes qu'on appelle, entre parenthèses, multiculti. C'est-à-dire un peu des intellectuels de la culture qui viennent au concert avec des calepins et qui prennent des notes. Bon, ben, justement, le fait qu'ils prennent des notes sur une musique dont ils ne comprennent pas le texte, ça me donne envie de ne rien dire, en fait. Parce que je suis curieux de voir comment est-ce qu'on fait de la dentelle autour de la world music. La world music, c'est un sacré marché de sourds-muets parce que en fait, sous couvert de multiculturalisme, sous couvert de métissage musical, on tait les messages des gens. Parce qu'en fait, quand on écoute de la musique d'Ouzbékistan, on s'émerveille des instruments et des danses et des tenues, mais on ne parle jamais du texte. Quand on écoute le Taras de Haïdou, quand on écoute le temps des Gitans, quand on écoute n'importe quel produit qui est assimilé à la world music, y compris nous, hein. Background Diffusion, par exemple, dans les milieux de la world music, c'était un genre esthétique. Alors que Gnawa Diffusion en Algérie, au Maroc et dans les pays où on comprend notre langue, en Égypte ou ailleurs, au Liban, en Syrie, quand on joue, c'est pas un groupe de world music. C'est un groupe de musique actuelle avec un discours. Et c'est radicalement différent. Et c'est cette dimension-là qu'on ne retrouvera jamais dans les présentations de la world music, soit à la FNAC ou ailleurs. On présente toujours l'esthétique des choses au lieu de parler du fond des choses. Et par exemple, un pays, moi, qui m'a fasciné pour ça et que je trouve vraiment exemplaire de ce point de vue-là, c'est le Japon. Par exemple, on est allé jouer au Japon plusieurs fois, je crois au moins 3 ou 4 fois. Et la première fois qu'on est allé jouer, j'ai sorti mon album solo, donc Marché Noir. Et ben, le distributeur m'avait demandé d'abord qu'il y ait des extras sur la réédition du CD pour les Japonais, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une vidéo en plus et quelque chose en plus, que j'ai fait. Mais en plus, ils voulaient les traductions des textes, ils voulaient une biographie détaillée, et les gens la demandent. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent au concert, ils te demandent qu'est-ce que ça veut dire tel mot, ça renvoie à quoi, dans quel texte, et ça. Ouais. C'est une autre manière d'écouter la musique, et je trouve que le message est d'autant plus fort comme ça. Moi je trouve vraiment dommage que les musiciens qui sont dans la world music et qui vivent de leur musique laissent taire leur message sous couvert de tournées ou sous couvert d'une esthétique.
Merci à Amazir Khateb d'avoir été avec nous toute cette semaine dans PCV. On se croise très bientôt dans la région sur scène. À la prochaine.
Merci pour cette interview de longue haleine. Enfin,
au revoir.
بلادي بلادي لافريك دي نور راها لافريك دي نور ماشي تعلي طماجور اقلب 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 عينيك تشوف لونفير دي ديكور من قدام ومالور بين لارمي وبني قندور سبعه والبو سبعه والعبايا بالشابور لي بانكيتين وفي جرسوسي سون امو دي تور واحد عبد امير والاخر عنده شيكور شاكان سا باسكور با بزوان دو ديسكور فيرمي لي ستورا جوست دون كون ريستور لامبير دي كونكيستادور فيرمي لي ستورا جوست دون كون اي دابور اون الجيري سون ديزاكور فيرمي لي ستورا La terreur s'installe comme une sorte de carnaval. La BRB, Barbie et Saint-Paris qui joue à la bala. C'est à celui qui normal sera le plus bestial. La politique du vide est à vide, même sous vide. Ils vendent le cow-cow, ils achètent les arachides. La balance est truquée des deux côtés, pèse la menace. Nous sommes à la botte de l'homme, à la botte bête. À la botte de l'homme, à la botte bête, à la botte de l'homme, à la botte bête. À la botte bête, à la botte bête, à la botte de l'homme, à la botte bête. Dans le but des tenances, fermez les stores. Juste le temps qu'on restaure l'empire des conquistadors. Fermez les stores. Sans désaccord, fermez les stores. Juste le temps qu'on restaure l'empire des conquistadors. Fermez les stores. Juste le temps qu'on est d'abord. Une Algérie sans désaccord, fermez les stores. Elle est le gaz d'Aroui, Raoul Hassan.
de l'autre feu des cafés morts. Et la marmaille s'endort et merveille les morts. Les vivants rêvent d'aéroport, certains se taisent et subissent le chaos qui met chaos. Ils ont dit d'or, pendant qu'ils égorgent et déplorent, ils ont dit d'or. Et c'est pas de la métaphore, la parole n'est pas d'argent, le silence n'est pas d'or. Converti en dinar algérien, le mutisme c'est la mort. Ouvrez les stores, j'ai pas le temps qu'on restaure l'empire des complices là-dedans. Ouvrez les stores, j'ai pas le temps qu'on élabore une Algérie sans désaccord. Ouvrez les stores, j'ai pas le temps qu'on restaure l'empire des complices là-dedans. Ouvrez les stores, j'ai pas le temps qu'on élabore une Algérie sans désaccord.
Voilà pour Ouvrez les stores, extrait de l'album Babelwed Kingston de Gnawa Diffusion. Amazigh Kateb de Gnawa Diffusion était notre invité dans PCV toute cette semaine. La semaine prochaine, un autre album, un autre artiste.